Pierre Cazel, vous publiez La Quadrature du Cercle chez les éditions Baudelaire. Bonjour.
Bonjour.
C'est votre premier ouvrage. Vous êtes guyanais, vous vivez en Asie depuis 20 ans et vous travaillez dans le domaine du développement durable. Vous êtes nourri au confluent occidental et oriental, on peut dire ?
Oui, on peut dire, je dirais, occidental français de par mes origines, on va dire parentales. Guyanaise surtout, je suis arrivé en Guyane dans mon adolescence et je pense que tout le monde comprend que c'est dans l'adolescence qu'on se fait vraiment ses valeurs avec les amis, les valeurs culturelles. Et puis je suis parti en Asie découvrir lors un stage de fin d'études et j'ai été enthousiasmé, on va dire plutôt happé par l'Asie, plus particulièrement la Thaïlande. Après, de par mon travail, j'ai voyagé beaucoup en Asie, j'ai vécu en Chine. Mais je pense que ça correspond bien au confluent entre l'Occident et l'Orient.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ? L'esprit de curiosité, un désir de comprendre l'univers ?
Oui, enfin, je bloque un peu sur le qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Ça a été une inspiration personnelle, en fait, qui est venue de l'intérieur, sur des sujets qui me passionnent depuis très jeune, hein, les mystères de l'univers. J'insiste sur le mot mystère, l'étonnement total quand on lit les ouvrages qui décrivent la création de l'univers avec le Big Bang, avec la formation des étoiles. On nous dit que les étoiles explosent et fabriquent tous les éléments chimiques qui vont constituer plus tard les planètes et notre corps. Le mystère dans tout ça, comment est-ce possible? Et puis plus tard, bien sûr, les mystères de notre psyché, de notre psyché. L'amour, les pensées, les idées, d'où ça vient. Et donc voilà, la curiosité, c'est un esprit qui m'anime depuis tout le temps. Et toujours un désir de comprendre, car j'ai jamais réussi à adopter une idée sans la faire mienne, sans la comprendre. Donc c'est un ouvrage, je l'espère en tout cas, de curiosité, d'explication, sans prétention de détenir la vérité, mais en tout cas avec un désir d'explication logique, de raisonnement logique, de fait de déduction qui font sens de manière intrinsèque, je dirais, sans chercher à être en accord ou en désaccord ou en conflit ou en compétition avec des théories déjà établies. Et je pense que le livre est en accord avec ce que dit la science et ce que les gens, ce qu'on pourrait penser des religions, parce que je parle aussi des religions sans être religieux, de la philosophie. Et voilà, moi c'est un livre qui moi-même m'a passionné à écrire et à lire. J'ai aussi appris beaucoup de choses parce que j'ai fait des recherches pendant l'écriture du livre. Et donc j'espère que c'est une curiosité qui sera contaminée, si je peux exprimer ce mot de manière positive, tous les lecteurs.
Un ouvrage paru chez les éditions Baudelaire. Alors en le parcourant, nous sommes quand même loin du développement durable qui est votre expertise.
Oui, on pourrait dire ça, puisqu'en tout cas je ne parle pas des questions de développement durable, mais développement durable c'est avant tout développement. Durable, c'est-à-dire qui puisse durer. Donc il faut faire attention à ne pas, bien évidemment, compromettre les chances du futur pour maximiser son présent, mais il faut faire attention de pas faire l'inverse non plus. Donc le développement durable, quel est l'équilibre, le juste milieu, c'est une question très difficile auquel moi-même je ne cherche pas d'apporter de réponse. J'essaie juste d'être en accord avec moi-même. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, la différence entre l'équilibre, qui est vraiment une conception occidentale, hein, entre deux, côté gauche, côté droit, positif, négatif, et l'harmonie occidentale qui pour ceux qui ont voyagé en Asie, et plus particulièrement en Thaïlande, hein, que je connais bien puisque une partie de ma vie est thaïlandaise, hein, mes enfants sont thaïlandais, c'est l'harmonie. Et donc il y a quelque chose un peu difficile pour nous à saisir, mais quand on le comprend, comprendre au sens éthique du mot, c'est-à-dire, enfin, étymologique du mot, c'est-à-dire prendre avec soi, faire sien, c'est un concept qui, en fait, est en accord avec l'idée d'être dans le présent, où il n'y a pas d'équilibre entre la droite et la gauche, où on est au milieu. Et le milieu, une fois de plus, en Asie, le milieu, c'est le milieu ambiant, c'est-à-dire le tout, et non pas le centre. Pour nous, le milieu, c'est le centre, c'est-à-dire un point d'équilibre toujours fragile entre deux extrêmes.
Pierre Cazel, le Guyanais que vous êtes, comment vous êtes-vous retrouvé jusqu'en Asie?
Alors c'est intéressant, je pense, puisque moi j'ai toujours, quand j'ai fait mes études en France, à Montpellier et à Toulouse, j'avais toujours eu l'intention de revenir en Guyane et j'avais un attrait vraiment très poussé pour le continent sud-américain. Et j'avais l'opportunité de faire un stage, j'avais le choix entre Santiago au Chili, je m'étais inscrit d'abord en premier lieu pour ce stage, et Bangkok, et j'avais un a priori négatif Hein, on a toujours un a priori. On peut pas s'empêcher d'avoir une idée, même quand on connaît pas. Et donc c'est un a priori pour moi qui était négatif sur l'Asie. Et je me suis dit, bon, si je veux aller vivre en Amérique latine, je le ferai. Puisque quand on veut quelque chose, on arrive toujours à le faire. Et donc je me suis dit, je vais aller faire mon stage de 3 mois dans une université internationale en Thaïlande. Comme ça, je serai au contact de la culture thaïlandaise. Et je me suis dit, je suis parti en me disant, je serai sûr comme ça que c'est pas là-bas que je veux vivre. Et je suis tombé totalement amoureux. Je pense que ça correspond totalement à ma façon de vivre. Mais en fait, j'ai retrouvé en Thaïlande et en Asie, mais vraiment en Asie, toutes les valeurs qui font la Guyane, c'est-à-dire le respect pour les anciens, mais le respect de manière générale, la simplicité, la douceur, l'appréciation du moment, du juste moment, un jus de fruits, un petit football sur la plage, voilà, des plaisirs simples. Et ça, il y a ça en Asie. Et ce qui est très fort, très important pour moi, le respect. En Asie, il y a le respect pour tout, pour les anciens. Et donc ça, moi, j'ai retrouvé beaucoup de les valeurs essentielles de la Guyane, je les ai retrouvées en Asie.
À travers ce livre, vous cherchez à faire partager les découvertes de l'esprit humain et les mystères de notre psyché, un mot qui revient souvent dans le livre.
Oui, psyché, psyché, hein, c'est chacun soi. Moi, je préfère dire psyché, mais on m'a dit que c'est psyché. Mais oui, puisque en fait, toute notre réalité, même celle de la matière, elle passe elle est produite dans notre psyché, par notre cerveau, si on veut utiliser ce langage. Pour nous, il peut pas y avoir de réalité autre que celle de notre psyché. Même celle d'un tabouret, celle du micro là que je tiens. Il passe par notre, même sensation quand je tiens, ce sont des informations physiques, tangibles, mais qui sont retranscrites par le cerveau et qui me font croire, on va dire, ou savoir qu'il y a un micro, une idée. Donc on peut pas dissocier la réalité de la matière de la psyché, en tout cas pour nous. Alors il est fort probable ou possible, on pourra jamais le savoir, qu'il y a une réalité objective au-delà, en dehors de notre existence en fait, c'est-à-dire que l'univers existe dès l'instant où on peut le voir. Ça, c'est des phrases philosophiques qu'on entend souvent, mais c'est notre réalité en tout cas à nous. On pourra jamais se diffaire de notre idée, de notre point de vue. Notre point de vue, c'est le point duquel on se situe, où on croit, c'est-à-dire nous-mêmes. On est le centre de notre univers, donc pour nous, de l'univers. Et donc la psyché revient bien évidemment. Alors dans le livre, j'essaye d'expliquer par rapport aux lectures que j'ai faites, des études que j'ai entreprises au niveau psychologique, pour expliquer quelle est la structure de notre psyché et comment la structure de notre psyché détermine notre vision du monde et la façon dont on appréhende le monde, dont on va vivre nos émotions en fonction des types psychologiques de chacun.
Vous faites référence au Big Bang, l'instant où tout aurait commencé, selon vous, mais vous savez très bien que tout le monde ne partage pas cela, surtout dans un territoire comme le nôtre, où l'empreinte religieuse et où les croyances sont omniprésentes.
Mais alors, j'aimerais vous contredire ici en disant que le Big Bang, par définition, n'existe pas, parce que c'est avant ce que la science sait. Ce que la science sait, c'est quand l'univers est déjà là. Et donc, quand on remonte le temps, on arrive à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. Mais vous avez dit, c'est un instant, c'est-à-dire où le temps n'existe pas. Donc, ce moment-là n'existe pas pour nous. La physique nous interdit même de poser la question, qu'y avait-il avant le Big Bang? Mais qu'y avait-il avant le Big Bang? C'est qu'est-ce que le Big Bang? Parce que nous, notre univers démarre après. Démarre après s'il y a quelque chose. Donc là, il n'y a aucun point de désaccord avec quelque religion que ce soit. Et j'explique bien dans le livre. Mon point de vue, en tout cas le point de vue que je défends, c'est que le Big Bang, l'univers, tout Dieu, on peut être tous d'accord que c'est un point d'interrogation. C'est pour ça que j'ai mis votre phrase d'introduction et j'insiste bien sur l'aspect mystérieux. Et quelle que soit la connaissance qu'on puisse avoir, l'humilité, en tout cas, nous impose de toujours mettre un petit point d'interrogation. Et on retrouve ça dans la foi. Hein. Dans la foi, il y a le mystère de Dieu, le mystère de la parole divine. Et dans la science, il y a le mystère de avant le Big Bang. Et c'est un mystère qui est insondable, même du point de vue de la science. Nos instruments, on va dire théoriques, mais l'instrument physique ne nous permettent pas, par définition, en fait, d'aller au-delà d'un mur, on va dire, que le Big Bang, que ce soit 10 puissance moins 43 secondes, 10 puissance moins 1000 secondes, il y aura toujours un moment au-delà duquel on ne pourra pas aller, par définition, en fait.
Et ceux qui disent que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, que leur répondez-vous?
Ah ben moi je suis d'accord, puisque Adam et Ève, que ce soit, en fait ça symbolise Adam et Ève, les origines, et l'origine même dans la Bible, elle est mystérieuse. Il y a Fiat Lux, avant on ne sait pas, et c'est la nature même de Dieu d'être inconnaissable, insondable, infini. Et donc on est tous les descendants d'Adam et Ève, on peut le croire de manière, qu'ils existaient de manière objective ou subjective, ça ne change pas grand chose, dans le sens où Adam et Ève, ça symbolise aussi la dualité de toute chose qu'il y a dans la matière physique, puisque toute particule physique est composée de particules élémentaires qui sont par nature duelles. C'est la nature de la physique quantique, que j'explique bien au début, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais on construit des ordinateurs qui sont basés sur des processeurs qui sont dans un état quantique, qui sont à la fois 0 et 1, donc là on dit pas Adam, Ève, on dit pas féminin, masculin, on dit 0, 1, ils sont en même temps, simultanément dans cet état-là. Et c'est pour ça que les ordinateurs quantiques ne peuvent pas, on peut pas aller plus vite puisqu'ils parcourent les deux chemins 0 et 1 en même temps. Et donc la nature duelle intrinsèque qu'on retrouve dans la symbolique Adam et Ève se retrouve dans la nature même de la matière, tous les particules élémentaires qui composent toute la matière dont on est fait notre corps, par exemple.
Alors, c'est loin d'être un récit, hein, votre livre. Il y a également des dialogues, beaucoup de références. Alors, moi, ce qui retient particulièrement mon attention, c'est un échange que vous avez eu avec votre fils et que vous avez tenu à rapporter dans le livre. C'était important pour vous de partager cela avec les lecteurs?
Oui, parce que je me suis rendu compte, en fait, en travaillant, en relisant, qu'il y a un dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire, ce que j'essaye d'expliquer aussi, c'est la simplicité qui est l'exercice le plus difficile, hein. D'ailleurs, je voudrais citer, c'est une lettre de Pascal à son bienfaiteur. Il lui écrit une longue lettre, à la fin, il s'excuse de faire une lettre aussi longue, et dit parce qu'il n'a pas le temps de faire plus court. Et en fait, quand j'ai posé cette question à mon fils, qui est une question du philosophe Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc c'est une question qu'on a le droit de se poser. On pourrait dire que la question, en fait sens en elle-même. Et avant même de répondre à la question, en fait, la question elle-même contient en général la réponse, hein. Et il m'a répondu, avant même de répondre à la question, hein, s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est que avant qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, il y avait quelqu'un qui était là, qui a fait quelque chose, plutôt que rien, sinon il n'y aurait rien. Et donc ça prête à sourire, mais ça m'a vraiment coupé le souffle, sa réponse, parce que j'ai pas dit, oh, t'es un enfant, tais-toi, tu sauras plus tard, il faut étudier la philosophie. Sa réponse m'a choqué, parce qu'elle me fait en fait, elle fait en fait faire une pause quand on pose une question, bien comprendre qu'est-ce qu'implique la question avant que la question soit posée. Et ça permet déjà d'éclairer plein de choses. Et ça permet aussi souvent, en fait, de trouver la réponse de manière évidente, ou en tout cas de faciliter la réponse, la recherche de la réponse.
Dans cet ouvrage, La quadrature du cercle, Pierre Cazel, vous incitez le lecteur à faire preuve de logique et de se faire sa propre opinion. Cela paraît difficile dans un monde où nous sommes entraînés, sollicités par le marketing, la publicité. Comment fait-on?
Ben, je dirais, en fait, c'est un exercice très simple et qui rassure, en fait, la logique, puisque elle nécessite pas de connaissances préétablies. Mais c'est un exercice difficile parce que il faut, pour s'engager sur cette voie, qui est la voie du raisonnement de la raison pure d'Emmanuel Kant, qui est fait d'une succession de déductions logiques et qui ne sont pas tirées des faits tirés de l'expérience. Donc, on n'a pas besoin de connaître des théories, d'avoir des opinions. On essaye de faire, c'est un exercice très difficile, parce que justement c'est un exercice de simplicité, on essaye de faire des raisonnements logiques du style A, si A entraîne B, B entraîne C, et on essaye de rester le plus proche de ça. Donc ça, c'est un petit peu bien évidemment abstrait quand je le dis comme ça. J'espère que le livre apporte des réponses, mais c'est pour moi un exercice sain, je dirais, parce qu'il m'évite de tomber dans des croyances. Et bon, moi, j'ai un peu du mal avec les croyances. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose, en fait, que j'envie, peut-être chez les gens, parce que ça donne une foi inébranlable. Mais j'ai besoin, moi, d'avoir un raisonnement logique, même si la conclusion ne me plaît pas forcément. Mais il y a la puissance, c'est la puissance du langage mathématique, en fait. Et donc, on n'a pas besoin de faire de mathématiques. mais c'est l'esprit du raisonnement mathématique qui vraiment aide dans toutes les questions qu'on peut avoir, surtout à niveau philosophique, bien évidemment. Quand ça reste dans la pratique, il faut faire avec la réalité. Et il y a bien évidemment beaucoup de choses à savoir dans les métiers de chacun. Mais au niveau philosophique, en tout cas, rester dans la logique pure, ça évite de tomber dans des travers qui nous mènent à des croyances, à l'idéologie.
Vous invitez également au lâcher prise et de prendre de la distance aux certitudes.
Alors le lâcher prise, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut comprendre de manière intuitive. C'est un exercice ô combien difficile. C'est un exercice que les Asiatiques, les Orientaux savent faire de manière, on dira, pour nous, hein, on dirait héréditaire, génétique, naturelle. Mais c'est un exercice très difficile parce qu'il demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Hein. Moi, j'utilise confiance pour moi, mais c'est la même chose que la foi. Mais ça nécessite vraiment, pour lâcher prise, d'avoir confiance, d'avoir confiance en soi. On voit quelque chose qui n'a l'air pas bon, mais quelque chose nous dit d'avoir confiance en nous. C'est ça le lâcher prise. C'est quelque chose de très difficile. J'espère dans le livre donner quelques lignes pour permettre au lecteur de comprendre en tout cas ce que j'entends par là. Mais c'est en tout cas une solution à bien des mots, en fait, le lâcher prise. C'est pas du tout l'acceptation d'un point de vue fataliste, mais c'est plutôt un ancrage dans la réalité. C'est ça aussi le lâcher prise.
Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il y a dans ce livre de nombreuses références, Einstein notamment, sur la vitesse de la lumière qui serait pas absolue, dites-vous. Est-ce qu'il s'agit d'un livre scientifique ou métaphysique ?
Alors, pas métaphysique. Métaphysique, ça serait donner une réalité physique absolue à un concept. Par exemple, quand je parle de Dieu, enfin, je cite Jung en fait, Carl Gustav Jung. Je cite, quand il parle de Dieu, il parle d'un fait de la psyché. Et pas, il parle pas d'un Dieu métaphysique. Et il dit pas non plus qu'il existe ou pas. Mais en tout cas, c'est pas son propos. Donc mon propos n'est pas métaphysique. Je voudrais revenir un petit peu sur la vitesse de la lumière. Elle est absolue. Mais en fait, on ne peut pas distinguer l'absolu de la relativité. C'est ça qui est intéressant, c'est Einstein. Et on peut le concevoir aussi intuitivement. Il ne peut pas y avoir de relativité sans concevoir qu'il puisse y avoir un absolu par rapport auquel tout serait relatif. Et donc, en fait, l'absolu et la relativité, ce sont, on va dire, deux opposés, mais en mathématiques, opposés, on dit complément. C'est, on va dire, deux faces d'une même pièce qui sont inséparables. On ne peut pas parler d'absolu sans la notion de relativité, et inversement, on ne peut pas parler de bien sans la notion de mal. Si l'un n'existe pas, l'autre n'existe pas non plus. Donc, en fait, c'est ça la puissance de la pensée d'Einstein. C'est l'absolue relativité et donc, l'absolue vérité, ça va être un petit peu difficile peut-être, de l'absolu et de la relativité. Hein, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Donc non, c'est pas métaphysique, scientifique dans le sens où scientifique, c'est pas quelqu'un qui a étudié les sciences. La science, ça vient de savoir, c'est une théorie, mais une théorie, c'est une suite logique d'idées qui produit, une suite logique de raisonnement qui produit une idée, qui va la sous-tendre. Et on va dire la justifier. Et donc, est scientifique quelqu'un qui va raisonner en dehors, au-delà, en tout cas dans le raisonnement, des croyances. Voilà, c'est ça être scientifique. Donc, tout le monde est scientifique quand on produit un raisonnement logique. Et donc, j'espère être en tout cas scientifique, mais pas métaphysique, c'est-à-dire métaphysique, ça vraiment reconnaître l'existence absolue d'une vérité. Et je termine le livre en disant justement que tout ce qu'on sait, il faut le savoir, mais il faut jamais oublier de mettre un point d'interrogation à la fin des idées, même des certitudes que l'on a. Si on n'a pas le point d'interrogation, la certitude, on l'enferme à double tour, elle ne peut plus évoluer. Donc c'est important, je pense, de toujours garder ce point d'interrogation qui est le point d'interrogation des scientifiques. C'est pas un doute qui stresse, c'est pas un doute qui remet en cause ce qu'on sait. C'est un point d'interrogation qui laisse toujours la porte ouverte à une idée qui va permettre d'enrichir celle qu'on a, ou de la contredire, ou une nouvelle porte vers une nouvelle idée.
Et tout le long du livre, vous mettez en perspective le yin et le yang, cette fameuse dualité dont vous parliez tout à l'heure, le zéro, le un, la conscience et l'inconscience. Pour vous, c'est ce qui régit nos modes de fonctionnement, ce qui régit l'humanité?
Alors je dirais, d'abord c'est une constatation, hein. On est conscient, donc on faudrait admettre au moins d'un point de vue théorique l'existence de quelque chose qui n'est pas conscient. C'est comme le bien et le mal, donc d'un point de vue théorique. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot inconscient ? Pas inconscience, hein, mais inconscient. Eh ben, tout ce qui n'est pas conscient et dont on perçoit quand même l'existence. Quand on se réveille, on a fait un rêve, on va déjà admettre, que ce soit vrai ou pas, mais on devrait admettre déjà, ben, il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'on dormait, pendant qu'on nous n'étions pas conscients, donc inconscients. Donc ça fait déjà, les rêves sont produits par l'inconscient. Sans qu'on sache vraiment ce que c'est, on peut déjà sentir ces manifestations dans l'intuition, dans l'instinct, dans les idées qui arrivent. Une idée qui arrive, on doit bien... Même la science, c'est une science qui est basée sur la notion de cause à effet. Toute réalité doit avoir des composantes qui le précèdent dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas concevoir une création ex nihilo qui vient du vide. Et donc dans le matière de la psyché, c'est pareil. Une idée, on doit bien concevoir, en tout cas tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on devrait, si on est scientifique, émettre l'hypothèse qu'elle a une préexistence inconsciente. Et après, comme a fait Carl Gustav Jung, essayer d'étudier toutes les manifestations de l'inconscient, les formes de production artistique, les intuitions, les rêves, les visions, les voix qu'on entend, que certains peuvent entendre en tout cas. Par exemple, le Coran, hein, qui est, c'est le prophète Mahomet, pendant 20 ans, il a eu des rêves, des voix, entendu des voix, eu des visions, il était analphabète, et ce sont ses amis, si je peux me permettre ce mot, qui ont retranscrit tous ses souvenirs de rêves, de voix et de visions. Alors je ne dis pas qu'il y a une réalité absolue, une vérité dans tout ce qui a été produit, mais c'est pour illustrer l'existence de quelque chose qui nous est inconscient et qu'on peut appeler l'inconscient, sans le définir, mais en tout cas en essayant d'essayer de noter de manière scientifique et rationnelle toutes les perceptions, toutes les manifestations qu'on peut percevoir de l'inconscient. Et donc Carl Gustav Jung, mais d'autres psychologues bien évidemment, ont étudié ces manifestations. Et ces productions, on va dire, de l'inconscient plutôt que ces manifestations, et produire des théories qui sont, une fois de plus, des façons d'expliquer ce qui nous anime, ce qui nous pousse à faire certaines choses, sans des fois même notre volonté. On s'en rend compte plus tard, oh, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi je me suis énervé, je sais bien que, mais à un moment donné, on est possédé. Et on est possédé par quoi ? Donc avant de répondre à quoi, on peut juste dire, bon voilà, c'est inconscient, on peut l'appeler l'inconscient. Et si on veut travailler dessus, on peut faire des recherches. Et voilà. Enfin, c'est l'esprit scientifique qui m'anime en tout cas et qui anime d'autres. Et c'est sans produire une fois de plus de croyances, d'idéologie, sans devenir gourou d'une idée, d'être possédé par l'idée. Il faut posséder l'idée et ne pas la posséder. C'est aussi le sens du lâcher prise bouddhiste. C'est pas être possédé par la chose. C'est pas ne pas posséder quelque chose, c'est ne pas être possédé par la chose. Voilà, c'est un exercice un petit peu délicat pour nous occidentaux, en tout cas à comprendre, mais c'est une réalité tout à fait naturelle pour les orientaux.
La quadrature du cercle, c'est le titre de ce premier ouvrage, Pierre Cazel, que vous avez dédicacé à votre cousin. Pourquoi ?
Ah, une question très personnelle, mais en fait, comme je l'ai écrit, elle est valide. En fait, j'ai jamais pensé à une dédicace. En fait, j'ai écrit le livre et quand j'ai trouvé un éditeur, j'ai retravaillé le manuscrit et quand je l'ai envoyé, la version finale, j'étais en train de faire les courses dans une grande surface à Cayenne et tout d'un coup, j'ai eu une vision. J'ai vu mon livre s'ouvrir, la première page, et j'ai vu marqué à mon cousin. Et mon cousin, qui est décédé, paix à son âme, en fait, est quelqu'un qui, je le sais, quand c'est venu, c'était une évidence pour moi, qui aurait tout compris de ce qu'il y a dans mon livre. Qui aurait été d'accord avec moi parce que c'est quelqu'un qui a toujours une opinion, mais alors totalement ouverte. C'est-à-dire toutes les opinions étaient acceptables pour lui, même s'il n'était pas d'accord avec. Mais c'est une opinion, donc voilà. Et je sais qu'il aurait, ça aurait pu être lui qui aurait écrit ce livre. On pourrait le dire aussi, si on veut franchir cette barrière, son esprit, on va dire, en tout cas sa façon de penser, qui a été la même que la mienne pour l'écriture de ce livre. Mais je vous remercie de me poser la question.
Alors, une explication est donnée hein, à la fin du livre sur le titre que vous avez choisi pour celui-ci, en l'occurrence la quadrature du cercle, sur la base d'une réflexion portée sur le cercle et le carré. J'invite les auditeurs, les internautes à acheter votre livre de manière à pouvoir se nourrir de cette réflexion que vous avez portée. Et puis vous terminez le livre par les paroles d'une chanson de Jean Gabin, intitulé « Je sais » de Jean Gabin. Vous êtes fan ?
Non, je suis fan des belles chansons, des belles productions artistiques. Et c'est une chanson qui m'a toujours ému déjà, Il faut vraiment, j'invite les gens, les lecteurs, quand vous arrivez au dernier chapitre, de faire une pause et d'aller écouter la chanson plutôt que de le lire le texte avec la belle voix, sensuelle, sereine et j'allais dire mûre, mais plutôt sage, Jean Gabin, avec des mots d'une simplicité telle que tout le monde, qui transcende vraiment, en tout cas pour moi, je le pense, et qui explique bien qu'il sait, on peut imaginer Jean Gabin avec toute l'expérience qu'il a eue, il explique dans la chanson, il sait tout ça et il sait qu'à la fin, on ne sait vraiment jamais. Mais il dit des choses qui pour moi sont très belles, il dit qu'à la fin de la vie, on oublie tous les moments de malheur et par contre, on n'oublie jamais un matin de bonheur.
Le fait d'avoir écrit ce livre, cela vous a donné goût à l'écriture, il y a déjà d'autres projets en préparation sur la Guyane peut-être?
Non, sur la Guyane, non. Par contre, j'ai commencé à écrire. Alors, moi, j'ai lu tous les ouvrages et j'ai travaillé beaucoup. C'est les ouvrages de Carl Gustav Jung, qui sont très, très difficiles d'accès. Et j'espère en tout cas pouvoir... j'ai commencé à écrire, on va dire, traduire des livres, c'est-à-dire réécrire avec des mots qui, je pense, peuvent être à la portée de moi déjà, et donc de tout le monde. Donc, pour pouvoir amener la pensée de Jung à tout un chacun, qui permet vraiment de comprendre les phénomènes psychologiques, on va dire, qui nous animent quand on est possédé par notre ombre, enfin, quels que soient les mots qu'on utilise, comprendre nos rêves. Donc j'écris aussi sur l'interprétation des rêves, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi dessus. J'essaye d'écrire des petites histoires. Vous verrez dans le livre, il y a deux personnages succulents, je dirais, la petite innocence et le petit garçon bon sens qui répondent, avec des dialogues, voilà, ingénus et de bon sens pour expliquer les rêves, pour expliquer certains concepts un peu difficiles. Donc avec mes collègues, mon équipe, on essaye de travailler sur des petites animations et donc sur ce livre qui c'est un projet plutôt de d'amener de manière claire la pensée de Jung à tout un chacun pour pouvoir vraiment, comme moi j'ai réussi à le faire, comprendre tout ce qui nous anime de manière inconsciente dans notre vie.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, La quadrature du cercle. Merci Pierre Cazel de nous avoir accordé cet entretien et merci à l'hôtel Amazonia pour l'accueil. Au revoir.
Merci beaucoup.